Bonjour, je suis Antoine Lard, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, avec Thierry Arnaud, on va vous raconter cette faille de sécurité à peine croyable et qui fait scandale, le Signal Gate, ou comment un journaliste a pu assister par erreur aux échanges top secrets des plus hauts responsables de l'administration américaine. Comment expliquer une telle négligence? Quelle est la réponse de Trump? Quelles conséquences pour son équipe de sécurité? Bienvenue au Washington Briefing. Salut Thierry.
Salut Antoine.
Bon, alors on rappelle les faits rapidement. Lundi, le rédacteur en chef de The Atlantic révèle qu'il a été inclus par erreur dans une boucle de messages sur Signal. Une boucle de messages qui réunit les plus hauts responsables de la sécurité américaine, le vice-président, le patron du FBI, la chef du renseignement, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères notamment. Et à sa grande stupeur, il découvre que tout ce petit monde est en train de parler des plans d'attaque américains contre les Houthis au Yémen. Il croit d'abord à une blague jusqu'à ce que ces attaques aient vraiment lieu. Et donc, il décide à ce moment-là de quitter le groupe et de révéler ce qui s'est passé, ce qu'il a appris. Donc, il y a vraiment deux choses au moins qui ne vont pas dans cette histoire pour l'administration Trump. D'abord, comment ce journaliste a été introduit dans cette boucle de mail. Les explications fournies sont assez vagues. On nous explique qu'il a été confondu avec quelqu'un d'autre qui porte les mêmes initiales que lui, donc JJ. Il s'appelle Jeffrey Goldberg. Et c'est manifestement Mike Waltz, le conseiller à la sécurité de Donald Trump, qui l'a inclus dans cette boucle de messages. Et puis la deuxième chose qui ne va pas et qui est peut-être plus grave encore, c'est que ces personnes qui sont en charge de la sécurité nationale ont utilisé une messagerie grand public et leur téléphone portable, parfois leur téléphone personnel, pour échanger des informations ultra sensibles, ce qui est une violation absolue de tous les protocoles de sécurité mis en place par les États-Unis. La première chose qu'on peut dire en tout cas sur cette histoire, c'est que à plusieurs niveaux, il y a eu quand même des lourdes défaillances, presque même complètement, de l'amateurisme et des négligences très graves.
Oui, et je pense que on y retrouve, et c'est très intéressant en fait, un parfait résumé de la manière dont cette administration Trump conduit son action, c'est-à-dire avec des objectifs radicaux. En l'occurrence, on va aller bombarder les Houthis. Avec une forme de désinvolture dans la manière dont on s'y prend. On n'hésite pas à échanger sur des canaux dont on n'a pas vérifié la sécurité. Et puis, lorsqu'on est pris sur le fait, en flagrant délit de négligence, parce que, à minima, c'est ça qui se passe, on applique la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que d'abord, on attaque la source, et on a entendu notamment Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, et puis la porte-parole de la Maison-Blanche, et puis le vice-président J.D. Vance s'en prendre au journaliste, à son intégrité, à ses méthodes, etc., alors qu'évidemment, il était pour rien dans ce qui était le contenu de cette boucle de messages. Et puis ensuite, on minimise la portée du fiasco en disant qu'il n'y a pas eu de plan d'attaque au sens strict qui ont été révélés, parce qu'on n'a pas parlé de localisation des cibles, on n'a pas parlé des sources, on n'a pas parlé dans le détail des méthodes employées. Donc au fond, tout ça n'est pas très grave, et c'est bien la preuve que les losers du camp d'en face n'acceptent pas le succès formidable qui est venu couronner cette opération. Et tout ça, en fait, du début à la fin du feuilleton, et je trouve un parfait résumé de la manière dont ils s'y prennent, à la fois en se prenant parfois les pieds dans le tapis, mais en ayant toujours cette méthode dont il faut reconnaître qu'elle est assez efficace pour essayer de tuer le scandale dans l'œuf. Alors évidemment, on imagine aisément ce qui aurait été la réaction des Républicains, la réaction de Donald Trump lui-même, si une telle bourde s'était produite sous la responsabilité de l'administration Biden. Là, je pense qu'on aurait été dans la stratosphère de l'injure politique et des accusations d'incompétence. Mais peu importe, ils gèrent ce scandale de cette manière-là, et ils espèrent s'en sortir en appliquant cette méthode toujours aussi convaincu dans l'idée que, j'allais dire, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais non, la seule défense, c'est l'attaque et la contre-attaque, en l'occurrence. Donc, on essaye tant bien que mal de tourner la page. Et la vraie question, au fond, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est la façon dont les Américains eux-mêmes, l'opinion publique, vont se mettre à considérer cette affaire et cette façon de faire.
Moi, j'ai l'impression que leur méthode, elle marche qu'à moitié, en fait. D'abord parce que ça n'a pas permis d'éteindre l'incendie. Ça fait 3-4 jours qu'on ne parle que de ça ici. Cette affaire fait les gros titres dans tous les médias, y compris sur Fox News. Et c'est la première fois depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche que son administration se retrouve autant en difficulté. D'habitude, Trump, il dicte l'agenda médiatique avec ses déclarations, ses décrets. Il est vraiment le maître du tempo. Là, ce n'est pas du tout le cas. La Maison-Blanche subit ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a eu un point presse avec la porte-parole, Caroline Leavitt, qui a été en difficulté face aux questions des journalistes. Elle, qui d'habitude maîtrise la situation, est toujours pleine de sang-froid. Là, on l'a senti vraiment en difficulté. Ensuite, l'autre problème, c'est effectivement l'opinion publique qui n'est pas du tout convaincue par ces explications. Alors, j'ai pas vu les sondages, mais quand on écoute un peu ce qui se dit dans les milieux trumpistes, on voit que les gens ne sont pas convaincus. Il y a des influenceurs MAGA notamment qui expliquent que la Maison-Blanche aurait dû reconnaître tout de suite qu'elle avait fait une erreur, prendre des sanctions à minima contre Mike Waltz, qui est à l'initiative de ce groupe chat, et puis ensuite mener une enquête pour faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Et puis le dernier point, comme tu l'as dit, leur stratégie, ça a été de minimiser les faits. Alors en jouant un peu sur les mots, en expliquant que oui, les informations partagées sur ce groupe étaient certes sensibles, mais pas classées secret défense. Et ça, ça a fini par leur revenir en pleine figure, puisque ça a poussé le journaliste de The Atlantic à publier l'intégralité des messages qu'il avait reçus, et notamment ce passage où Pete Hegseth, le ministre de la Défense, décrit par le menu ce que va être l'attaque américaine contre les Houthis.
Oui, alors revenons un petit peu le feuilleton parce qu'il est quand même très intéressant. En fait, il se passe 4 jours entre le moment où le journaliste Jeffrey Goldberg est mis dans la boucle et le moment de l'attaque. Et sa première réaction lorsqu'il découvre qu'il est dans cette boucle et l'incrédulité, c'est-à-dire qu'il le partage avec certains de ses confrères en disant « Regarde ce truc, j'arrive pas à imaginer une seconde que ça soit authentique ». Et puis à mesure que les échanges avancent, il commence quand même à se poser la question parce que tout ça a l'air relativement convaincant et tout à fait raccord avec ce que peut supposer être les échanges entre ces différentes personnalités. Et puis, à un moment donné, le 15 mars, la conversation prend effectivement un tout autre tour. Ils ont débattu pendant quelques jours de l'opportunité de savoir s'il fallait attaquer les Houthis au Yémen ou pas. Ils n'étaient pas tous d'accord. En particulier, le vice-président J.D. Vance, lui, était plutôt sur la réserve en disant ça va être compliqué à expliquer aux Américains. Et puis si on fait ça, on rend service aux Européens qui assurent l'essentiel du trafic sur la mer Rouge. On ne sert pas véritablement les intérêts américains. Il y a d'ailleurs cet échange qui a été évidemment très remarqué en Europe parce que et J.D. Vance et Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, disent tout le mal qu'ils pensent des Européens. Mais finalement, tout ça aboutit à la décision quand même de procéder à cette frappe. Et Goldberg va raconter qu'il est sur le parking d'un supermarché et regarde son téléphone. Et à ce moment-là, Hegseth annonce que donc, le secrétaire à la Défense annonce qu'on va taper dans 2 heures. Et c'est ça qui est le fondement du fiasco. C'est-à-dire qu'il révèle à l'avance un plan d'attaque en expliquant que ce sont des avions qui vont aller frapper, en donnant en quelque sorte le déroulement horaire de la mission sur une messagerie qui n'est pas protégée et qui est accessible depuis l'extérieur. Ça veut dire que des ennemis des États-Unis potentiellement auraient pu avoir accès à cet échange et ça aurait évidemment mis la mission en péril et mis la vie des soldats américains en danger. Et c'est véritablement ça qui est tout l'enjeu de ce fiasco et tout l'enjeu de la polémique et la raison pour laquelle elle a pris une telle ampleur aux États-Unis. D'autant que dans la foulée, tu as dû voir ça aussi, il y a quelques jours, un magazine allemand qui s'appelle le Spiegel, du coup, s'est penché, est allé creuser, enquêter sur la protection par ces hauts responsables américains de leurs données personnelles. Et leur enquête leur a permis de retrouver les coordonnées, les mots de passe, les accès d'une bonne partie de ceux qui étaient sur ce groupe d'échange assez facilement. Et donc, tous ces gens-là ont fait preuve, et c'est simplement factuel ce qu'on est en train de se dire, vraiment d'une légèreté en échangeant des informations sur des sujets très importants, graves. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Goldberg, au moment où il décide de publier l'intégralité des échanges, comme tu le racontais, parce que, en gros, il retourne le truc de manière assez intelligente, c'est-à-dire que l'ensemble des responsables de l'administration Trump leur dit Il n'y a rien là-dedans de classified. C'est pas du secret défense. On n'avait pas de raison de protéger davantage. Et donc, le magazine leur envoie à tous un mot en disant, ben, comme ce n'est pas secret défense, vous n'aurez pas d'objection à ce que nous, on publie l'intégralité des échanges sur le magazine. Et la réponse de la CIA, réponse de la porte-parole de la Maison Blanche, ah ben si, quand même, il y a des trucs sensibles là-dedans, on ne peut pas rendre ça public, ce n'est pas prévu pour être public. Et donc, ils sont pris en flagrant délit de leur contradiction.
Et d'ailleurs, au moment de ces échanges, Steve Witkoff, je crois, est en Russie, au Kremlin, où il doit rencontrer Vladimir Poutine. Et normalement, les officiels américains n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable pour échanger des informations aussi sensibles, tout simplement parce que les portables, ça n'est pas très sûr, c'est relativement facile à pirater, c'est en tout cas ce que disent les spécialistes. Et donc, il faut être extrêmement prudent quand on communique par ce biais-là. Et quand on a besoin de communiquer des informations classé secret défense, eh bien, il faut suivre un protocole, passer par des lignes fixes, sécurisées. Et cette règle-là, évidemment, n'a pas du tout été respectée.
Évidemment, si tu te dis que le Spiegel y est arrivé aussi facilement, tu imagines ce que ça donne quand on est le contre-espionnage chinois ou russe. Je veux dire, voilà, avec des moyens, une expertise qui est sans commune mesure avec celle qui peut venir de la rédaction d'un magazine allemand. Donc, effectivement, ça soulève cette question grave d'une forme de désinvolture. Et d'ailleurs, moi, je fais le rapprochement avec un autre événement. Je t'entendais parler de la visite de Steve Witkoff à Moscou. Quand il est revenu, il a accordé un entretien à la télévision américaine, enfin, pas à la télévision américaine d'ailleurs, à Tucker Carlson, qui est un ancien journaliste de Fox News, et il lui a parlé sur sa chaîne, en gros, YouTube et sur les réseaux sociaux. Il lui a accordé un long entretien pour rendre compte de son voyage à Moscou et de tout ce qu'il avait vu. Et on l'entend parler de l'Ukraine et on l'entend à un moment donné dans cette conversation évoquer le sort des quatre régions de l'est de l'Ukraine qui sont en partie conquises par la Russie, mais en partie seulement, et que la Russie a rattaché à son pays en inscrivant ça dans la Constitution russe. Et dans la conversation avec Carlson, Steve Witkoff n'est pas capable de citer le nom des quatre régions. Il aurait dit, oh, il y a la Crimée, et puis il y a, je crois, Lugansk, et puis c'est plus. Il n'y a pas la Crimée dans les quatre régions. On relèvera au passage qu'il parle de Lugansk, qui est la prononciation russe, que les Ukrainiens disent Louhansk, ça nous dit aussi un peu quelque chose. Mais les trois autres régions, il ne les connaît pas. Il est incapable de donner le nom. Et tu te dis, voilà ce haut responsable du gouvernement américain qui est en train de négocier avec les Russes, avec Vladimir Poutine, qui a entre ses mains le sort de ces régions, la vie des millions d'Ukrainiens qui y vivent, et il donne sincèrement l'impression de ne pas savoir de quoi il parle. Et je trouve qu'il y a une sorte de parallèle entre les deux, tu vois, dans cette forme de désinvolture. Dans cette manière qu'on a de survoler un peu les sujets, sans rentrer dans le détail, sans prendre toutes les précautions d'un professionnel rigoureux. Et le problème, c'est qu'on a en face des gens qui le sont, professionnels et rigoureux. Et c'est ça qui est relativement inquiétant.
Witkoff, d'ailleurs, il négocie tout seul, je crois. Il n'a pas de conseiller, pas de traducteur autour de lui. Il y va vraiment presque la fleur au fusil, en fait, quand il va rencontrer Poutine. On nous l'a présenté comme un dur à cuire, quelqu'un qui sait négocier, qui sait obtenir des choses. C'est sûrement vrai dans le domaine des affaires où il a fait fortune, dans l'immobilier. Mais la diplomatie, c'est autre chose. On voit ce que ça a donné à Gaza, par exemple. C'était lui le grand artisan du cessez-le-feu à Gaza. Bah, ça a tenu quoi? Un mois et demi? Et là, la guerre est repartie. Sur l'Ukraine, très sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Donc on a l'impression, effectivement, que ce Steve Witkoff n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux.
Oui, et d'une certaine manière, il s'est fait balader par Netanyahou hier et il se fait balader par Poutine aujourd'hui. Et donc on va voir si à un moment donné, Trump est capable d'en tirer les leçons. Mais voilà, je pense que la conclusion provisoire, parce qu'on va voir jusqu'où va cette affaire, mais qu'on peut tirer de cette affaire de signal, c'est fondamentalement celle-là. C'est qu'il y a un mélange de foi absolue dans le fait que on prend les bonnes décisions, couplé à une grande désinvolture dans la manière dont on les applique et on les met en œuvre. Et la question qu'on peut se poser, c'est Est-ce qu'il croit véritablement à ce qu'il raconte au moment où ils essayent de minimiser cette affaire, ou est-ce que c'est simplement de la communication qu'ils se rendent compte qu'ils ont quand même assez lourdement fauté, comme l'a d'ailleurs reconnu, et c'est le seul, Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, le Secretary of State. Parce qu'à un moment donné, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sondage, moi j'en ai vu un qui disait que 60% des électeurs républicains trouvaient que c'était une affaire sérieuse. Et ça, quand tu trouves ça dans un sondage, c'est quand même un sujet de préoccupation pour Donald Trump, évidemment.
Merci Thierry.
Merci Antoine.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque semaine votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les épisodes précédents sur bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming.